Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Donc, jugement impressionnant, incroyable, surprenant de la Cour d'appel aujourd'hui sur la loi 21, qui est finalement, d'une certaine façon, approuvée. Et on va en parler, justement, avant que je dise des niaiseries, avec deux avocats, deux professeurs de droit, Louis-Philippe Lampron, donc professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Louis-Philippe.
Bonjour Antoine.
Et Guillaume Rousseau, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, mais qui est aussi avocat du mouvement laïque dans cette cause. Donc, est-ce que je vais commencer par ça? Guillaume, avez-vous l'impression d'avoir gagné aujourd'hui à plate couture, non?
Oui, effectivement, c'est une grande victoire pour tous ceux qui défendent la laïcité au Québec. À la fois parce que faut comprendre qu'en première instance, le juge avait décidé que la loi sur la laïcité, certains de ses aspects importants n'étaient pas applicables aux commissions scolaires anglophones. Donc, on pouvait se retrouver, par exemple, avec un professeur qui enseignait le visage couvert devant les élèves dans une école anglophone. Donc, le droit des services publics laïques se trouvait à être rendu en grande partie non applicable aux commissions scolaires anglophones. Alors ça, c'est vraiment la grande victoire parce que ça, c'est cet aspect-là du jugement de première instance est renversé par la Cour d'appel. Et l'autre grand aspect, bon, il y en a plusieurs autres, mais la disposition de souveraineté parlementaire, donc qu'on appelait autrefois de dérogation, et là, la Cour vient nous rappeler à quel point c'est vraiment lié à la souveraineté du Parlement. C'est pas une question de violation des droits, c'est vraiment la souveraineté du Parlement. Donc, ce sont les travaux de moi-même, de plusieurs collègues, depuis des années, on met de l'avant qu'il s'agit vraiment d'une disposition qui permet aux élus, ultimement aux électeurs, hein, parce que la clause est à renouveler aux 5 ans, puis il y a des élections au maximum aux 5 ans. Donc, c'est vraiment une clause qui permet aux élus et aux électeurs de mieux protéger les droits et libertés. Dans ce cas-ci, je pense que c'est un triomphe pour le droit à des services publics laïques.
Peut-être un mot de Louis-Philippe Lampron sur cette expression « souveraineté parlementaire ». Je sais que j'ai vu récemment, je me souviens plus où, une phrase de vous qui disiez, de toi, qui disait « je n'aime pas ce rebranding de la clause dérogatoire. »
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, la Cour d'appel... Bon, d'une part, parlons de l'arrêt. Par ça, je vais revenir sur ce branding-là ou le rebranding de la disposition de dérogation. Là. C'est effectivement une victoire à plate couture. Là. Je veux dire, c'est même une défaite très, très sèche pour les opposants. Là. Moi, je m'attendais à beaucoup de... En fait, j'avais prévu plusieurs des décisions sur le fond de la Cour d'appel, mais je m'attendais pas au ton. On en parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment un ton qui est sans appel. Là. Les arguments, la quasi-totalité des arguments, sauf un là, sur le droit de se porter candidat aux élections, c'est rejeté, mais c'est rejeté sèchement par la Cour d'appel. Hein. Je veux dire, sur les lois préconfédératives, sur l'article 33, et particulièrement sur l'article 33, on sent que la Cour d'appel affirme son adhésion à l'arrêt Ford, alors que c'est vraiment là, la question qui est au cœur des arguments des opposants.
L'arrêt Ford, c'est cet arrêt de 1988 oui. Là, sur la loi 101, dans laquelle... les juges disaient ben la disposition de dérogation, elle existe, puis elle a été utilisée correctement par les gouvernements. Puis là, il y avait le gouvernement Lévesque qui l'avait utilisé dans toutes ses lois à partir de 1982. Donc, forcément, ça a fait jurisprudence. Et là, la Cour d'appel semble comme ça adhérer à cette vision-là.
Les critères, c'est dire essentiellement, le législateur, il n'y a pas de frein. Il le dit expressément, il l'intègre dans une loi, puis à partir du moment où il l'a mis dans une loi, puis que c'est affirmé expressément, c'est ça que Ford dit, les tribunaux sont hors-jeu. Alors là, la question devant les tribunaux, c'est beaucoup de se dire, est-ce que depuis 88, l'évolution de la jurisprudence, on n'est plus dans le même contexte sociopolitique, est-ce que c'est pas le temps de revoir les conditions de validité de Ford? Et donc, le juge Blanchard, il laissait entendre qu'il était pris par le stare decisis, là, la règle du précédent, puis c'était pas à lui de réécrire un arrêt de la Cour suprême, mais on sentait qu'il n'en pensait pas moins, alors que la Cour d'appel, elle le dit, là, je veux dire, elle adhère aux critères de Ford, et donc pour elle, Ford, il n'y a pas vocation à être visité, puis il n'y a pas de conditions supplémentaires à être rajoutées, et donc le législateur a utilisé la disposition de dérogation à la québécoise et à la canadienne valablement.
Mais comme l'a dit Guillaume, est-ce que ça renforce pas l'idée d'une disposition de souveraineté parlementaire? Parce que c'est pas mal ça qu'il dit. C'est le reste est politique. Là. Les juges, parfois, doivent se plier à cette disposition-là, puis laisser, finalement, la population, à un moment donné, décider.
Ouais. Ben c'est là où je m'oppose notamment à Guillaume mais à d'autres là sur là-dessus. Pour moi, c'est moins une victoire pour la laïcité cette décision-là de la Cour d'appel qu'une question de clarification, puis peut-être même pour moi là une brèche dans le régime de protection des droits fondamentaux à travers la reconnaissance mur à mur de la capacité des législateurs à suspendre les droits fondamentaux. Fait que moi, où j'ai du mal avec l'idée de parler de l'article 33, c'est de ça dont on parle, de la Charte canadienne, comme une clause de souveraineté parlementaire, plutôt que comme une disposition de dérogation, c'est qu'il faut revenir à l'idée qui est derrière la dérogation, au-delà là, des conflits de légitimité qui concernent le rapatriement sans le consentement du Québec en 1982.
C'est on ne peut pas en faire abstraction en même temps, non?
Non, mais c'est au cœur du débat, on est bien d'accord. Mais là, il y a toute la question de la Charte québécoise, on pourrait y revenir. Mais pourquoi ça m'agace, moi, c'est qu'il est quand même question d'une suspension d'un régime de protection aux droits fondamentaux. Bien sûr, le droit du dernier mot dans le texte de la canadienne et de la québécoise, c'est clair, là. Puis la Cour d'appel, elle insiste là-dessus. Il revient au législateur. Je veux dire, ça, c'est le texte de 33 et de 52. Maintenant, la question de la dérogation préventive... C'est sûr que là, c'est un petit peu escamoté. Je sais que la Cour d'appel s'y attaque, puis qu'encore une fois, c'est une adhésion claire au principe de 88, mais de là à parler juste d'une technicalité ou d'une disposition de la souveraineté parlementaire, c'est pas à l'Assemblée nationale de déterminer quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux. C'est à un tiers indépendant. Maintenant, on peut parler de la légitimité des tiers indépendants qui sont chargés d'interpréter les droits fondamentaux. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais de commencer...
Puis on peut parler aussi de la possibilité pour des élus de protéger les droits et libertés, c'est pas uniquement les juges, n'est-ce pas, Guillaume?
Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce jugement-là, c'est que la Cour prend acte que dans la loi sur la laïcité de l'État, on consacre le droit à des services publics laïques, à des institutions publiques, dans la mesure prévue par cette loi-là. Donc, le but de l'interdiction du port de signes religieux, le but qui est une obligation de visage découvert pour les fonctionnaires, c'est que les bénéficiaires de services publics et accès à des services publics laïques. Donc, c'est le législateur qui décide de mieux défendre nos droits, de prendre la jurisprudence telle qu'elle existe, mais de la réorienter à certains égards, parce que la jurisprudence, c'est beaucoup les syndicats, c'est beaucoup les commissions des droits, c'est des gens qui ont de l'argent qui font avancer leur cause, mais le bénéficiaire des services publics, lui, il y a très peu de gens pour le défendre, il n'y a pas de gros lobby. Donc, il faut que le législateur, à un moment donné, prenne la pôle et défendre les bénéficiaires de services publics qui avaient été négligés par la jurisprudence. Et là, vraiment, on consacre vraiment, on reconnaît le droit des services publics laïques, même pour les anglophones, et ça, c'est vraiment une grande victoire. Puis l'autre chose qui est intéressante par rapport à Ford, c'est que certains disaient la différence entre la loi 21 et la loi 101 à l'époque de Ford, c'est que maintenant, il y a les clauses dérogatoires des deux chartes des droits, alors que dans Ford, c'était seulement la charte canadienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Cour met de côté l'argument qui avait été plaidé par certains de dire, puisque c'est les clauses dérogatoires des deux chartes des droits, qu'on critique le gouvernement des juges, qu'il y a du populisme et tout, qu'il y a de plus en plus d'usage de la disposition, il y a tout un contexte qui fait qu'il faut revoir Ford. Alors, c'est complètement mis de côté comme argument. La Cour d'appel dit non, il y a toujours eu des usages de la clause dérogatoire de manière ininterrompue depuis que la clause existe dans la charte québécoise. Et c'est pas vrai qu'il y a un contexte qui permet de mettre de côté Ford. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y avait cet argument-là souvent qui était soulevé, que le fait d'invoquer la clause des deux chartes, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qui changeait tout, alors que non, c'est la souveraineté parlementaire qui s'exprime. Et si elle ne pouvait s'exprimer qu'à l'égard d'une des deux chartes, ben ça fonctionnerait pas parce que la charte québécoise, c'est une courroie de transmission de la jurisprudence de la charte canadienne. Donc à ce moment-là,
elle n'a pas d'autonomie.
Hein? Exactement. Si on limitait l'usage des clauses d'une des deux chartes, on disait vous pouvez pas mettre les clauses des deux chartes, ben ça équivaudrait à faire sauter les deux clauses dérogatoires. Donc la Cour là-dessus a été très cohérente, très solide, a mis de côté tout ce travail. Puis même il y a un passage absolument délicieux là-dessus concernant cet argument comme quoi on devrait pas utiliser les clauses des deux chartes. La Cour dit, et je cite, les défenseurs de cette thèse n'avancent aucun argument juridique. J'ai jamais vu ça dans le jugement. Donc, c'est que de la politique qui a été plaidée, c'est de l'idéologie. Et là, la Cour rend un jugement en droit, donc ça fait du bien.
Il y a beaucoup de choses à dire. Là, le régime de protection des droits fondamentaux, là, faut pas, je veux pas faire mon François Legault puis sortir une pomme puis une banane. Non, mais tu sais, faut pas confondre les pommes et les bananes. L'idée, en fait, derrière, on remonte à 1948, là. OK? Il faut juste revenir à c'est quoi les droits fondamentaux puis pourquoi ça prend un tiers indépendant. Là, j'entends que la loi sur la laïcité, c'est formidable parce que le législateur protège mieux les droits fondamentaux. Mais là, on fait quand même l'économie du fait que ça n'a jamais été testé, là, la proposition sur la compatibilité avec les droits fondamentaux des groupes qui sont affectés par l'interdiction qui a été rajoutée par la loi sur la laïcité.
Les anglophones, ça vient d'être testé, c'est positif.
Non, mais là, les anglophones, c'est autre chose. Les anglophones, ça, c'est l'article 23, les droits linguistiques. Mais le cœur du débat, depuis le début, là, ce dont il est question, c'est la question de le désavantage imposé sur les membres des groupes minoritaires religieux qui croient sincèrement devoir porter des signes religieux. C'est la conception du droit à l'égalité. Ça, c'est au cœur du débat. Maintenant, ça ne veut pas dire que le législateur n'aurait pas pu démontrer la raisonnabilité de la loi sur la laïcité de l'État. Mais le problème avec la dérogation préventive, c'est que nous n'avons jamais fait l'évaluation, nous n'avons jamais fait le test. Et là, on parle de la dérogation. On parle même du fait que la dérogation, maintenant, ça permet aux législateurs de mieux protéger les droits fondamentaux dans un contexte où, quand même, c'est fort le café. On peut pas nier le fait que ceux qui subissent des désavantages, c'est pas la majorité de la population du Québec.
Oui, mais ceux qui
ne portent aucun signe religieux, c'est les groupes minoritaires. Maintenant,
mais ceux qui subissent des désavantages peuvent se plaindre, je pense à ce passage-là que j'ai souligné, la société civile dont on ne peut ignorer le poids et l'importance en matière de protection des droits et libertés, d'être de son côté pas dépourvue de moyens si elle estime inapproprié l'usage que le législateur fait des dispositions de dérogation. Donc, il y a de la politique. Il me semble que ça fait des années, justement, qu'on inhibe les politiciens et les législateurs en leur disant « Faites rien, d'abord le test des tribunaux. » Est-ce que ça relance pas la politique, ce jugement-là?
Ça responsabilise les élus.
C'est ça, exactement. Parce que eux autres aussi peuvent défendre des gens qui se croient lésés dans leurs droits et libertés et ils l'ont fait dans le passé. C'est pas uniquement au juge à faire ça.
C'est pas uniquement au juge à faire ça, c'est très, très clair. Et de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, puis ça, c'est la tâche aveugle de la critique du gouvernement par les juges, c'est que dans le régime constitutionnel canadien, et même parce qu'encore une fois, là, je veux dire, il y a la posture qu'on a par rapport au régime constitutionnel de 82. On peut le juger illégitime, mais si jamais on juge un régime illégitime, on peut pas enlever les principes qui parlent d'un régime effectif de protection des droits fondamentaux. C'est de ça dont il est question quand on parle d'une dérogation aux deux chartes en même temps. C'est de dire, il y a beaucoup d'arguments qui sont mis de l'avant, certains se contredisent, puis l'argument de l'illégitimité de la Charte canadienne de 1982, alors qu'on déroge aussi à la Charte québécoise, je comprends bien là que pour l'instant, il n'a pas d'autonomie, mais si on veut protéger le régime...
Tu l'as écrit toi-même, Louis-Philippe,
bien
qu'il n'a pas d'autonomie. Ouais.
Tout à fait, mais ce qu'on veut, en fait, c'est de s'assurer d'un régime de protection des droits fondamentaux qui soit effectif. Et ce qui est antinomique, c'est que ce soit l'instance qui doit respecter les droits et libertés de la personne, qui définit elle-même quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux puis quand est-ce qu'elle les viole. L'exemple qu'on donne, parce que c'est caricatural, puis là, je ne fais aucune comparaison avec le gouvernement du Québec, mais imaginons-nous un Donald Trump qui serait responsable de déterminer quand est-ce qu'il respecte l'État de droit puis quand est-ce qu'il viole. C'est juge et partie, en fait. Fait qu'il faut juste être capable de trouver un équilibre. Moi, ce que je trouve malheureux avec le recours préventif à la disposition de dérogation pour la loi sur la laïcité de l'État, c'est que moi, que je crois qu'il y avait une portion peut-être importante de cette loi-là, qui aurait pu passer le test, qui aurait pu être jugée raisonnable, comme une atteinte raisonnable aux droits fondamentaux. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle que de l'utilisation de la disposition de dérogation. Et ça force même les opposants, puis je me tais après, ça force même les opposants à développer une myriade d'arguments créatifs qui ont tous été rejetés par la cour d'appel ici, pour contourner la disposition de dérogation. Alors, je veux dire, c'est malheureux parce qu'on aurait pu faire l'analyse, le gouvernement aurait pu être rassembleur à quelque part en allant devant les tribunaux, dans l'arène judiciaire, puis en disant, sont où les arguments permettant de dire que ce qui se passait avant la loi 21, là, ça tient plus, puis que maintenant, il faut restreindre davantage les droits d'une portion importante de la population du Québec.
Guillaume, c'est Rousseau, ça qu'on fait pas là-dessus?
Oui, bien rapidement, en fait, autant le procureur général que le mouvement laïque québécois que pour les droits des femmes, jamais on est allé là en disant « Ah, oh, notre loi viole les droits fondamentaux, mais on va vous expliquer pourquoi c'est justifié. » Non, la loi ne viole pas les droits fondamentaux. Il existe une telle chose. Dans la liberté de religion, il y a deux facettes. Il y a le libre exercice et il y a le devoir de neutralité religieuse. Et quand on est un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions, c'est le devoir de neutralité religieuse qui l'emporte sur le libre exercice. Quand on est dans le privé, quand on est une partie privée, quand on est un représentant de l'État, mais pas dans ses fonctions, là, c'est le libre exercice religieux qui l'emporte. Mais c'est clair, lorsqu'on est un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions, on a un devoir de neutralité. Donc, on n'a pas à justifier une atteinte à une liberté de religion. Il n'y en a pas d'atteinte à la liberté de religion. Donc, c'est ça, c'est toujours ce qu'on a dit depuis le début. Fait qu'on n'a juste pas embarqué dans la logique des opposants à la loi sur la laïcité qui nous disaient non, il y a une atteinte au droit, puis on la démontre pas vraiment, mais on vous demande de la justifier. Non, on n'est jamais allé là. On a toujours tenu la ligne qu'il n'y avait pas de violation de la liberté, qu'on n'avait pas à justifier de violation, qu'il n'y en avait pas.
Mais pourquoi avoir dérogé?
Comme dans l'affaire de la prière de Saguenay, la Cour suprême a dit pas « Nous violons la liberté de religion du maire de Saguenay en l'empêchant de faire sa prière. » Non, c'est son devoir de neutralité religieuse qui découle lui-même de la liberté de religion.
Donc, pourquoi déroger alors, pourquoi comme dit Louis-Philippe Lampron?
Ben parce qu'on sait qu'on a raison. Donc, pourquoi qu'on dirait au tribunal, on sait que c'est ça. On veut pas que la loi. Parce que si tu n'as pas de dérogation, là, tu peux avoir un juge de première instance qui suspend ta loi en attendant le procès un an plus tard, en attendant le jugement un an et demi plus tard.
Comme ce qui est arrivé à la loi de Philippe Couillard.
Ben oui, quand tu n'as pas de clause dérogatoire, la loi est suspendue très rapidement. Okay. C'est la nouvelle tendance de la jurisprudence. Donc, on veut que notre loi soit appliquée. On veut protéger. Là, pendant le procès, il y a eu des témoins, des femmes musulmanes qui sont venues parler de leurs enfants, qui sont victimes de prosélytisme, qui veulent pas de figure d'autorité, qui font la promotion de prosélytisme religieux, ouais, de pratiques contraires à l'égalité homme-femme. Nous, on ne veut pas qu'un juge de première instance, un peu orienté comme l'était le juge Blanchard ou d'autres, vienne suspendre nos lois. Mais on veut défendre ces femmes-là, on veut défendre ces enfants-là et on sait qu'on a raison juridiquement en se basant sur l'arrêt mouvement laïque. Donc, on n'a pas de raison d'aller justifier en s'excusant. Non, on sait qu'on a raison, on met la clause dérogatoire, on plaide nos arguments puis on gagne.
Louis-Philippe Lampron, est-ce que la clause dérogatoire ou la disposition de dérogation, c'est pas une manière de dire pour les élus, ben nous, on sait ce que vous allez nous dire parce qu'on a vu la jurisprudence. On n'est pas d'accord avec votre interprétation des droits et on est dissident, dans le fond. C'est ça.
C'est pas ça qu'on a dit quand on a adopté la loi, mais c'est une hypothèse. Bonne question.
Je sais, mais moi, c'est comme ça que je lis l'affaire parce que je vois les juges ne pas s'entendre entre eux. Parce que souvent, il y a des dissidences importantes. Ils changent d'idée sur les droits fondamentaux. Évidemment, Rodriguez et Carter sur l'aide médicale à mourir, c'est totalement différent. C'est le même droit, le droit à la vie. Donc, pourquoi les législateurs, eux, pourraient pas, pour 5 ans, imposer leur interprétation? C'est ça que je... Pourquoi ce serait nécessairement une violation à un droit plutôt que... Est-ce que c'est pas plutôt une autre interprétation?
Ben, c'est la question du tiers indépendant qui est fondamentale pour qu'on parle d'une protection effective des droits et libertés, parce que sinon, on revient au régime où les droits ont une portée déclaratoire. Puis une portée déclaratoire, on peut s'essuyer les pieds dessus, parce que dans les faits, il y a rien qui nous contraint à les respecter, en fait. On est vraiment purement dans le domaine politique. Alors, quand on a un contre-pouvoir qui est effectif, pour qu'il soit effectif, ça implique un tiers qui peut forcer celles et ceux qui doivent respecter les droits fondamentaux. Puis en droit international, canadien, québécois, c'est largement l'État, le gouvernement, les institutions publiques qui doivent les respecter. Et pour que ce soit effectif, puis pour qu'on ne se contente pas du fait que l'État dise « j'ai raison, il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux, fiez-vous sur moi », ben nécessairement, ça implique un examen par un tiers indépendant. Après ça, on pourra débattre de l'identité du tiers. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ça prend un tiers indépendant. Bon, moi, ce que j'entends, là, c'est deux choses. Là. C'est le fait que, moi, le fait de dire qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits, mais on déroge, j'ai un problème de rhétorique là avec ça, là, nécessairement. Mais moi aussi, j'en ai un autre sur le fait que
on déroge pas de manière... une interprétation, parce que les droits, c'est pas dans le ciel des idées, les droits. J'entends bien,
mais dans les faits, on est d'accord que dans l'état actuel de la jurisprudence, on aurait conclu à une restriction à au moins deux droits fondamentaux, c'est la liberté de religion puis le droit à l'égalité pour les groupes minoritaires. À mon sens, là on parle de l'approche en deux étapes, là, restriction, justification. Pour qu'il y ait une violation de la charte, il faut que l'atteinte ne se justifie pas dans une société libre et démocratique. Donc, c'est là où le gros de l'analyse aurait dû être fait, à mon sens. Puis pour moi, il y avait même des chances que l'État, dans l'état actuel de la jurisprudence canadienne et québécoise, que ça passe, en fait. Là, le problème, c'est que on revient à 2019. C'est quoi les arguments mis de l'avant par le gouvernement Legault puis Simon-Jolin Barrette, ministre responsable à l'époque? Il y en avait deux. Un, on veut éviter des contestations judiciaires. Ça, c'est raté, de chez raté.
On appelle ça la sécurité juridique en droit civil.
OK, mais je veux dire, ça n'a pas marché, là. Je veux dire, on est en cours d'appel pour s'en va en Cour suprême. Bon. Deuxième argument, c'était celui dont tu parlais tout à l'heure en disant dans la loi 62, il y a un juge qui a suspendu la loi.
Ça, c'est la loi sur la loi sur le visage couvert, là, je le dis pour les auditeurs.
La loi Couillard, là. C'était Philippe Couillard, c'est le gouvernement libéral de Couillard qui l'avait fait passer. Bon. Et donc, là, on se sert de cette exception-là pour dire si on ne déroge pas, on risque de se faire suspendre sa loi. Très bien. À la limite, moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est la nouvelle tendance, parce que j'aimerais ça qu'on me donne d'autres exemples que la loi 62. Puis je trouve qu'on fait aussi largement abstraction du fait que la loi 62, elle a été suspendue parce qu'elle était tout croche, beaucoup plus que parce qu'il y avait une atteinte aux droits fondamentaux. Elle tenait pas debout, la loi 62,
mais
là, dans
l'argument
sa structure.
A été les droits fondamentaux, non?
Ben, il y avait une partie d'argument, mais il y avait aussi une problématique dont on savait même pas la prévisibilité, là, on savait même pas ce que ça impliquait, comment la mettre en œuvre. Bon, mais la disposition de dérogation, mettons que c'est ça l'enjeu, ben, très bien, si un juge qui la suspend, la loi, de manière illégitime et contraire à l'état du droit ou en principe pendant toute la contestation de la constitutionnalité d'une loi, la loi continue à produire des effets, fait qu'elle va produire des effets pendant 10 ans, ça c'est quand même pas en faveur de l'idée du gouvernement par les juges, ben là, il y aurait plus de légitimité à dire on va déroger aux droits fondamentaux a posteriori. Mm-hmm. Le problème, c'est là, c'est le a priori, puis toute la rhétorique qui vient derrière le fait qu'on essaie de justifier une suspension des droits fondamentaux, pas juste l'exercice de la souveraineté parlementaire, puis une impossibilité, hein, alors que c'était le cas avant la dérogation, de remettre en cause la légitimité, la légalité de la décision, puis de ce qui est au cœur de la loi 21. Moi, c'est ça qui me pose problème.
Rapidement. Donc, il faut pas oublier que il y a des droits acquis dans la loi 21. Donc, à partir du moment où on considère que les représentants de l'État, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, c'est le devoir de neutralité qui l'emporte et non pas le libre exercice, ben il faut comprendre qu'en permettant le port de signes religieux par des personnes en autorité parce qu'elles étaient embauchées avant l'adoption de la loi, on vient effectivement porter atteinte à la liberté de religion. Donc, à ce moment-là, les droits acquis, effectivement, c'est une atteinte à des droits. Donc, il fallait la clause dérogatoire pour protéger les droits acquis de la loi 21. Donc,
ça, c'est le prends l'inverse.
C'est
créatif.
À cet aspect technique juridique, il y avait la raison politique. Donc, le but, c'était de dire, c'est le Parlement qui décide, c'est les élus québécois qui décident. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Le fameux tiers neutre, il y a des problèmes dans la nomination des juges. Donc, on peut imaginer un système où il y aura un tiers neutre, un extraterrestre qui débarque sur Terre pour rendre des jugements. Ça n'existe pas. Donc, le tiers neutre, il y a un problème avec ça. En théorie, c'est bien. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. Surtout que le mode de nomination des juges au Canada, ça fonctionne, à mon avis, ça fonctionne pas malheureusement avec tous les problèmes qu'on sait, la nomination par le fédéral. C'est vraiment pas l'idéal. Par contre, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est le parlementarisme. On a l'opposition qui a des droits, qui pose des questions, qui fait venir des gens, qui contrôle la moitié de la liste des invités, plein de gens qui viennent en commission parlementaire, des gens qui manifestent à l'extérieur. On a la colline parlementaire, on a des journalistes qui challengent les politiciens.
On a la Cour dit l'électorat détient le pouvoir de défaire le gouvernement qui aurait usé ou abusé de la faculté de dérogation.
Ils peuvent voter aux élections, puis c'est le système britannique, puis le système britannique dans l'histoire, c'est un des pays qui a mieux respecté les droits de la personne, mieux que les États-Unis avec leur suprématie judiciaire, puis leur Cour suprême ultra puissante, c'est pas génial comme système. Trump nomme ses juges, puis c'est pas mieux.
Le système l'avortement, Roe versus Wade est renversé.
Exactement, le système britannique avec une opposition qui a des droits, qui a des budgets de recherche, avec des journalistes qui challengent, avec des vrais débats, une période des questions où l'opposition a vraiment du temps pour poser les questions au ministre qui a déposé son projet de loi avec la clause dérogatoire. On a, avec des droits et des libertés qui sont encadrés, on a un bon système parlementaire au Québec, un des meilleurs au monde, et ça protège nos droits fondamentaux. À partir du moment où les électeurs sont actifs, ils parlent à leurs députés, ils sont dans les lignes ouvertes, sont sur les réseaux sociaux, ils défendent leurs droits, interpellent leurs députés, c'est un très bon système pour protéger nos droits fondamentaux. On n'a pas besoin de prétendus tiers neutres, objectifs indépendants qui seraient extraterrestres, mais dans les faits, ils ne sont pas extraterrestres.
Est-ce que ça ne peut pas être bon d'avoir justement un dialogue entre le tiers neutre indépendant, le Parlement?
Si le Parlement, quand le Parlement met pas la clause dérogatoire, ben c'est correct, les juges se prononcent sur toutes les articles, donc c'est ça qui est bien. Puis ce qui est bien aussi, c'est que là, la Chambre canadienne, on sait qu'elle est légitime à cause du rapatriement unilatéral sans le Québec, mais quand le Québec met pas la clause dérogatoire, il consent au contrôle de constitutionnalité. Donc, ça légitimise le contrôle de constitutionnalité quand le Parlement décide de ne pas mettre la clause dérogatoire. Ouais. Donc, la clause dérogatoire, elle légitimise tout l'appareil de contrôle de constitutionnalité auquel Louis-Philippe tient tant. Fait que je sais pas pourquoi on veut limiter l'accès à la clause dérogatoire, alors qu'elle est au fondement même de la légitimité, qui autrement serait très, très faible, considérant le rapatriement de la Constitution sans le consentement du Québec, puis considérant le fait que la Charte québécoise n'est que la courroie de transmission de la jurisprudence de la Charte canadienne.
Louis-Philippe Lampron, en terminant, malheureusement, achève. On était bien parti, on aurait pu parler très longtemps, mais on a encore quelques minutes. Là, je
alors qu'on fasse un colloque. Moi, OK, il y a deux éléments, en fait, de tout ce que j'entends. Là, je veux dire, c'est pas une question d'avoir un extraterrestre, puis c'est pas d'avoir un tiers neutre et objectif qui va définir la vérité du droit fondamental. C'est l'idée du tiers indépendant. On ne doit sortir de l'idée du juge est parti. Puis les droits fondamentaux, quand on remonte dans l'histoire, là, il y a une instance qui doit les respecter, puis c'est l'État. Je veux dire, c'est arraché petit morceau par petit morceau, ces zones d'autonomie personnelle-là. Puis après ça, en 1948, le changement de paradigme, c'est la protection des groupes minoritaires. Puis pour s'assurer que la démocratie, donc, qui demeure la loi du plus fort, hein, je veux dire, c'est ça le parlementarisme, le gouvernement majoritaire en ce moment, les oppositions, elles parlent, c'est formidable, puis il y a plein de bonnes choses, mais on a vu pendant la pandémie le pouvoir des oppositions par rapport à un gouvernement majoritaire, et c'est une bonne chose, il faut que les choses avancent.
C'était en urgence sanitaire, là, il y avait...
Je comprends, mais en toutes circonstances, un gouvernement majoritaire, il peut imposer son agenda, et c'est ça la démocratie.
Mais la majorité de la Cour suprême aussi, ça fonctionne, la majorité 5-4.
J'entends bien, sur la question de la Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité. Mais moi, je suis pas là pour défendre la Cour suprême du Canada. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que l'idée du tiers indépendant, c'est propre à l'État de droit, c'est les trois branches du pouvoir. C'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et il faut regarder la situation avant l'utilisation de la dérogation. Puis après, on avait un système contraignant.
Toi-même, Louis-Philippe, qu'il y a un problème avec la nomination du tiers indépendant au Canada.
Créons un conseil constitutionnel québécois lequel on s'entendra sur le mode de nomination. Puis après ça, on fera des contrôles de constitutionnalité.
Je pense pas qu'un juriste, mettons, comme Guillaume Rousseau, avec les positions qu'il a, serait jamais nommé par... à quelque cours que ce soit par un gouvernement Trudeau et même Poilievre.
Oui, là, on entre dans un débat plus sur la légitimité politique. Puis moi, c'est beaucoup ce que je déplore dans le débat actuellement. C'est un méchant problème. Mais
Monsieur Yves-Marie Morissette, il peut avoir écrit ce qu'il a écrit, mais quelqu'un qui pense l'inverse ne serait jamais nommé dans un tribunal, cour supérieure, cour d'appel ou cour suprême, non?
Sur l'article 33, écoutez, faudrait voir, parce que là, c'est un article, on fait référence à un article de 2002, d'une part, puis les propos du juge Morissette, qui était à l'époque avocat, je pense, il parlait d'un consensus.
Il était doyen de la faculté de droit de Guillaume.
Oui, c'est ça, mais il parlait d'un consensus. L'article 33, à un certain moment, c'était à peu près lettre morte, le contentieux là-dessus. Ça a été réactivé suite au débat sur la loi sur la laïcité de l'État. Mais je veux dire, mon ancien directeur de thèse pensait même le retirer de son cours de bac tellement, je veux dire, c'est Ford avait canné le truc pour n'en parler plus. Bon. Alors, okay. Là, la question là, de le tiers indépendant puis le conseil constitutionnel à la Québécoise, l'idée là de la Charte québécoise puis de la Charte canadienne, puis là, on est dans la légitimité politique puis dans la défense d'un régime effectif de protection des droits fondamentaux. Si le Québec, son problème, c'est la légitimité de la Charte canadienne, c'est la légitimité des arbitres imposés par le régime constitutionnel de 1982, il y en avait plein de solutions pour être capable de faire passer la raisonnabilité tout en ne foutant pas aux poubelles le régime de protection des droits fondamentaux. On aurait pu se tourner vers la Commission des droits de la personne. Je veux dire, la Commission des droits de la personne, là, elle n'a pas de problème de légitimité au Québec. C'est nommé par l'Assemblée nationale. Puis, je veux dire, on aurait pu charger la Commission des droits de la personne de l'évaluation, de la raisonnabilité, au fond, de la proposition faite par la loi sur la laïcité de l'État. Fait que tu déroges juste à la canadienne. Moi, c'est ça que je proposais, par ailleurs, en 2005, dans le texte dont on a parlé.
La Commission des droits de la personne, tout ce qu'elle fait, c'est référer à la jurisprudence anglo-canadienne de Common Law. C'est tout ce qu'elle fait à pleine page dans ses rapports. Elle n'a aucune pensée civiliste par rapport aux droits de la personne, la Commission des droits. Mais voyons, la Commission des droits, c'est la courroie de transmission de la jurisprudence anglo-canadienne.
Comme la Charte québécoise.
OK. Ouais. Alors donc, la solution du régime, c'est qu'en attendant, je sais pas quoi, il y aura plus de tiers indépendants chargés de faire vérifier si l'État respecte les droits fondamentaux ou ça va être au bon vouloir du gouvernement. Quand il va décider d'utiliser la disposition de dérogation, il va être en mesure de dire dans l'espace public, fiez-vous sur moi, je respecte les droits fondamentaux, il va falloir avaler ça.
Bon, c'est ça qui marche pas. Au Parlement, à chaque fois qu'il y a une clause dérogatoire, pas à chaque fois, là, quand c'est des régimes de retraite qui discriminent les les hommes contre les femmes. Il n'y a à peu près pas de débat au Parlement. Personne ne se pose de questions.
Il va y avoir un débat sur la loi 52.
Il y a un gros débat. Les ministres se défendent, le gouvernement se défend. Il y a une élection après. Puis ça a l'air que les électeurs sont d'accord avec l'usage de la clause dérogatoire dans la loi
sur la laïcité. Mais le cœur de la loi sur
les élections et aux sondages.
Je me souviens quand le gouvernement libéral a décidé de pas reconduire la clause dérogatoire dans sa deuxième loi, le gouvernement Bourassa en 93, je crois, dans sa loi 178.
Faut regarder aussi le bilan des fameux tiers neutres, la destruction de la loi 101, le déclin du français. C'est ça le résultat. Moi, je veux bien les idées abstraites de tiers neutres qui protègent les droits. Moi, je regarde les faits, les jugements de la Cour suprême qui ont détruit la loi 101, le recul du français. C'est ça la réalité. Si le Québec a pu sa clause dérogatoire, en tout cas, c'est le recul du français, c'est le recul de la laïcité potentiellement. Fait qu'à un moment donné, c'est bien beau les idées abstraites, mais il faut regarder les résultats concrets.
Louis-Philippe Lambron, on est obligé de terminer malheureusement ces plates.
C'est horrible. C'est horrible. Parce qu'il y a quand même.
On reviendra tous les deux.
Mmh. Oui, on reviendra. Avec plaisir. On finira.
Alors,
on
reprendra exactement. Un mot de la fin.
OK. Alors, la loi 101, c'est parce que la minorité qu'on protège dans la loi 101, c'est la minorité francophone. Parce que là, je veux dire, c'est l'idée largement minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Alors, mais la loi 21, l'effet négatif. Là, je suis pas en train de dire que ça n'est pas défendable, ni justifiable, raisonnable ou quoi que ce soit. Mais l'effet négatif, il est contre un groupe minoritaire au Québec.
Non, c'est deux choses
complètement différentes. C'est toutes les personnes qui veulent porter des... Est-ce que c'est pas toutes personnes qui veulent porter des signes religieux, même?
Oui, mais
un curé qui voudrait être, je sais pas.
Non, mais les curés, c'est pas des officiers dont on parle. On parle de citoyens. Je veux dire, c'est pas la question. On veut pas qu'il y ait des imams. Tu sais, ça, c'est pas ça le débat de la loi sur la laïcité. C'est les individus. Puis je veux dire, ça s'adonne que la majorité de la population du Québec, elle a aucun effort à faire pour respecter cette interdiction-là. Fait que je suis pas en train de dire que le régime proposé par la loi 21 constitue nécessairement quelque chose qui ne passe pas, c'est là où l'argument de la comparaison avec ce qui se passe en Europe est très intéressant, parce que ça peut passer le test de la proportionnalité. Je suis en train de dire que là, en dérogeant, on empêche l'évaluation par un tiers indépendant de se faire, et on empêche le gouvernement de convaincre, en fait, qu'il avait des motifs sérieux à faire valoir pour justifier cette restriction-là.
Il faut s'arrêter, malheureusement.
On a gagné le débat.
Faut s'arrêter. En tout cas, la cour d'appel a dit qu'on pouvait déroger.
La cour d'appel.
C'était assez clair.
Victoire.
Merci infiniment. Oui. Donc, Louis-Philippe Lampron de l'Université Laval et Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke et aussi avocat du mouvement laïque. Merci infiniment et merci à la prochaine chicane. Salut.
Salut.